They're gonna show you now exactly how jazz music is made. Yes.
Jesus, what?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Une série cette semaine, le roman du jazz, épisode numéro 3, la France, terre d'élection. La dernière année de la Grande Guerre, du côté de Lunéville, l'orchestre noir d'un régiment d'infanterie américain joue devant la population locale. Une petite vieille se met à esquisser quelques pas de danse. Les interprètes en uniforme se demandent « Est-ce que nous ne sommes pas en train de jouer une musique qui deviendrait celle du monde entier ?» Et d'abord, l'une des plus populaires dans un pays particulier, la France. Et pas seulement par le hasard d'un conflit mondial qui y amena des soldats américains, par prédestination, peut-être. Puisque nous écrivons le roman du jazz, nous en sommes au troisième épisode, nous pouvons bien oser un grand mot. La France a été la terre d'élection du jazz. Tel ou tel jazzophile a même prétendu que c'en était la vraie matrice, la terre sainte. Philippe Gimplowitz, bonjour.
Bonjour.
Auteur du roman du jazz, 3 volumes chez Fayard, nous empruntons le titre de notre série à votre propre série. C'est pas très aimable de vous désigner comme jazzophile, historien de la musique, musicien. Jazzophile?
Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Si vous voulez, il y a toujours un moment quand on aime cette musique, il y a toujours le moment de la révélation. Il y a le moment de la première, du premier bouleversement, le moment du grand transport d'une certaine manière. On écoute ça et on est parti ailleurs. Et tous les amateurs de jazz ont connu ce moment-là, avec un musicien en particulier ou un disque en particulier. Quelquefois, c'est forcé d'ailleurs. On vous enferme dans une pièce, on vous met un disque et on vous dit « écoute ça ». Quelquefois, c'est un frère aîné. Ça a été mon cas, un grand frère, professeur de guitare, que j'ai vu entouré de disques de jazz, avec des musiciens, avec des guitares, des amis, un style de vie. Je me suis dit, c'est cette vie-là que je veux mener.
Alors quand on est fidèle à cette première fois, c'est pas pour faire des fiches.
Non, c'est pas pour faire des fiches, non. C'est pour écrire autrement, quoi.
Du dedans ?
Oui, c'est pour écrire de dedans, voilà. Pour ce livre, j'ai souhaité parler de l'intérieur du jazz, si je puis dire. Être à côté des musiciens, parmi les musiciens, et non pas au-dessus d'eux, ou non pas comme un professeur sur une estrade, mais comme un simple marcheur. Voilà, comme
moi qui voulais vous faire faire de l'archéologie, j'évoquais la source armée, 1917. On pourrait évoquer des sources civiles, je ne sais pas, Debussy, où vous pouvez... parler d'opérette aussi. En 1917, il y a eu une opérette un peu jazzée à Paris,
sur
une scène.
Oui, laisse-les tomber. Oui, enfin, c'était une revue à grand spectacle, plutôt accompagnée par un orchestre afro-américain, justement.
Alors, un orchestre afro-américain arrive dans les bagages d'un régiment d'infanterie qu'on consigne un moment, parce que on ne les envoie pas tout de suite sur le front. Les Noirs ont des tâches de soutien et d'intendance du côté de Saint-Nazaire et de Nantes. Il y avait dans cette région, en 17-18, quelques 150 000 soldats américains.
Oui, évidemment, oui. Enfin, les Américains sont là. Quand vous lisez la presse de l'époque, c'est étonnant, quoi. Vous avez l'ébahissement, la stupéfaction des autochtones qui regardent ces grands gaillards arriver avec leurs chapeaux à 3 trous. Les véhicules sont énormes, tout est énorme. Et puis, il y a les Noirs qui arrivent. Alors, vous dites qu'on les envoie au front. On ne les enverra pas au front. Plus exactement, au front, ils seront affectés à des tâches subalternes, non pas des tâches combattantes, mais en revanche, il arrivera... que certains de ces unités noires soient sous commandement allié français notamment, et que eux combattent.
Oui, parce que je parlais de Saint-Nazaire, de Nantes, grand concert, théâtre Gralin, le théâtre bleu, le théâtre de l'opéra à Nantes, mais je parlais de Lunéville, alors là, ils n'étaient pas loin du front.
Non, là, ils sont pas. Là, c'est le deuxième cas, effectivement. Ils sont sous commandement français à ce moment-là.
Alors, il y a un orchestre à signaler, c'est celui de Jim Europe.
Oui.
C'est le seul orchestre noir.
Non, il y en a deux ou trois.
On a gardé le souvenir.
Non, il y en a deux ou trois, mais celui-là peut-être parce que le nom a quelque chose d'absolument étonnant. Jim Europe. Le fait qu'il arrive effectivement à Nantes, accueilli en grande pompe. C'est l'anniversaire de la naissance ou de la mort, je me souviens plus de Abraham Lincoln. Il donne un grand concert et on retrouve ce sentiment dont je parlais, le sentiment de stupéfaction, d'ébahissement. On les écoute jouer et mon Dieu, ils jouent pas comme nous.
Quand ils jouent aux Tuileries, parce qu'il leur est arrivé de se produire aussi à Paris, les musiciens de la garde républicaine demandent d'ailleurs « Vous avez truqué vos instruments ?»
Mais oui, parce que personne ne peut jouer de cette manière-là. Ça semble insensé. On vient de sortir du 19e siècle. C'est le siècle de l'académisme musical, où quand on joue de la trompette, on fait des sons bien lisses, bien droits. Quand on joue de la clarinette, on s'efforce d'avoir le son le plus rond possible. Et eux, ils y vont. C'est ça qui est absolument étonnant et qu'on a du mal à réentendre aujourd'hui parce qu'on écoute cette musique, on l'a déjà entendue, ça nous rappelle mille choses, mille évocations, mais il faut imaginer ce que ça peut représenter pour des gens de 1918, 1919 d'entendre ça.
Hein. L'écho ensuite se prolonge des années chez les avant-gardistes. Cocteau fera d'ailleurs souvent le rapprochement entre le jazz et les bruits de la guerre dans des cabarets distingués comme le Bœuf sur le Toit, dans des boîtes de nuit.
Dans des boîtes de nuit, oui.
Et les dancings, vous allez nous dire que dans les années folles en France, Frotti Frotta, l'un de vos thèmes préférés.
Oui, c'est Philippe, préféré, j'adore quand ça frotte, moi.
Philippe Berkowitz, on danse sur les morts.
On danse sur les morts, on frotte, les corps se rapprochent. Oui, c'est tout de même, c'est quelque chose d'étonnant, l'histoire des danses nouvelles après-guerre. Avant, on danse en ligne, ou quand on danse en couple, on danse la valse et le partenaire est très loin. Et là, d'un seul coup, ça se rapproche, donc il faut imaginer ce que ça peut, là encore, ce que ça peut représenter d'avoir le partenaire très proche de soi dans des danses. Le slow notamment ou le tango, et qu'on n'est pas proche du partenaire, on lui fait signe, on gigote.
Mais il y a des jeux plus sages, on écoute en rang, dans les magasins des grands boulevards, les disques de jazz d'Amérique qu'on joue, c'est l'expression qu'on utilise. Et puis il y a aussi les témoins venus d'Amérique, il y a les instruments, les instrumentistes relais. Alors il y a un type assez extraordinaire qui s'appelle Mez Mezereau. Alors, c'est un de vos thèmes favoris, c'est le H.
Il distribue en même temps
la marijuana, les drogues les plus diverses, en même temps qu'il dispense sa musique.
Mais
tout
oui,
ça,
mais...
le Pépigale.
Oui, il fait découvrir la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Il faut imaginer, là encore, que les années 30, ce sont des années grises, ce sont des années du plein emploi ou des années de la grande docilité industrielle. Et l'homme du jazz, c'est celui qui va pas travailler à 8 heures du matin. C'est celui qui sort quand il fait nuit et qui est chez lui quand il fait jour. C'est tout de même extraordinaire. Donc, effectivement, il y a des produits qui, à l'époque, semblent absolument insensés. La marijuana, c'est quelque chose d'énorme. Et Mez Mezereau, c'est un cas extraordinaire. D'abord, il écrit un livre... Release the Blues en américain, La rage de vivre. Alors lui, c'est un double témoin. C'est un témoin et un passeur. D'abord, c'est le témoin de ce que les auditeurs ont peut-être écouté hier, le passage du jazz à Chicago entre les Noirs et les Blancs. Il fait partie de ce petit groupe de disciples groupés autour du tabernacle sacré. Il dira d'ailleurs le saxophone de... J'ai tenu le saxophone de Sidney Bechet comme le Saint-Sacrement. Donc voilà. Et quand il arrive en France en 1929, il arrive, il est porteur de la bonne nouvelle.
Et arrive, sur ses entrefaites, dans sa chambre, un jeune homme, bien élevé lui, très propre sur lui, qui a du temps, des rentes. « Vous voulez m'apprendre le saxophone ?» demande Hugues Panassier. Alors, Hugues Panassier... Un de vos thèmes favoris.
Mais oui, c'est un de mes thèmes favoris parce qu'il est, il est pas dans la route, il est pas dans les clous, il est pas où on l'imagine. Alors, Hugues Panassier, effectivement, c'est un fils de bonne famille qui va être progressivement, son père a découvert une mine de manganèse dans le Caucase. Il va être bientôt ruiné. Mais enfin, il va vivre de ses rentes pendant toute sa vie. Il est extrêmement catholique. Dans les catégories politiques de base, il est réactionnaire, il est vaguement monarchiste, adepte du culte marial, etc., etc. Et il entend, Hugues Panassier entend des choses que les autres n'entendent pas et que les progressistes n'entendent pas. Et c'est pour ça que je l'aime bien.
Mais il veut surtout donner un sens à une musique qui ne cherche pas, elle, la théorie, et une intention à une musique qui est souvent improvisée.
Oui, exactement. Mais pour lui, il y a une, voilà, le jazz est une cause sacrée. D'abord, c'est la cause des Noirs. Et les Noirs représentent le peuple Christ, d'une certaine manière. C'est-à-dire le peuple qui n'a rien, qui ne vaut rien, qui est au banc de l'humanité et qui, en même temps, apporte un message extraordinaire, le message de cette musique nouvelle. Et ce qui est merveilleux avec Hugues Panassier, qui, évidemment, bon, après, a été extrêmement vilipendé, réactionnaire, archiréac, tout ce que vous voulez. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il entend la grandeur qu'il y a dans cette musique. Et il va, lui vouer sa vie. Enfin, c'est une musique qu'il connaîtra extrêmement bien.
Il en fait une musique comparable aux autres grandes musiques. Je ne sais si il faut utiliser ce terme, parce que c'est une musique incomparable.
Oui, mais attendez, parce que à l'époque, il y a deux types de musique, la grande musique et la musique légère. Et pour lui, la musique des Noirs sera la deuxième grande musique.
Eh bien, mon cher Panassier, je voudrais vous demander, depuis quand vous vous intéressez au jazz ?
Et depuis 1927, c'est l'année où j'ai connu le véritable jazz, et constatant que cette musique était ignorée en général du public, j'ai voulu la défendre, la faire connaître plus exactement en écrivant des articles, et peu à peu j'ai été amené à écrire un livre entier sur la question, le Jazzot, qui a été publié en 1934. Également, avec quelques amis, dont Charles Delaunay, nous avons fondé le magazine Jazzot pour défendre cette musique, le Hot Club de France, naturellement. Et par la suite, je me suis rendu aux États-Unis un peu avant la guerre. Et là, j'ai pu entendre tous les orchestres et musiciens que j'avais déjà connus par le disque, ou réentendre ceux qui étaient venus à Paris, comme Louis Armstrong, Duke Ellington et quelques autres grands solistes.
The great, the one, the only Louis Armstrong.
Le jazz est devenu savant. Avant, il sortait d'eux comme des noirs, comme un instinct, n'est-ce pas, de race. Et maintenant, c'est devenu une science. Alors, chez Armstrong, il y a les deux choses. Il y a l'instinct du jazz, l'instinct qu'ils ont toujours eu, l'instinct de noir, et la science.
Retour du permanent de la série, Armstrong, qui visite la France en 1934, au moment où la société savante, parce que c'est bien de ça qu'on peut parler, Duc Panassier et de ses amis, de Launay and Co., se constitue, créant des hiérarchies, nommant les artistes, j'allais dire nominant les artistes, et au sommet, il y a Armstrong.
Oui, alors Armstrong, c'est le roi. Quand Armstrong vient, d'ailleurs, il est invité par Jacques Canetti, au grand dame Hugues Panassier, qui est furieux, parce que pour lui, Canetti est un marchand de soupe, alors que lui...
est un savant, musique de culture, musique
de divertissement. Oui, musique de culture, c'est l'art gratuit, c'est l'art sacré. Et effectivement, Armstrong, pour Hugues Panassier, se situe au sommet du Panthéon. Et un Panthéon formé de... Alors, ce Panthéon, évidemment, il le crée de toutes pièces. Il le crée de toutes pièces. Il n'y a pas de nom de musicien sur les pochettes de disques. Il n'y a pas de pochettes de disques. Il y a simplement des petites rondelles. Et il bâtit tout un univers. C'est tout de même une construction extraordinaire. Le Jazzot dont il a parlé, son livre de 34, c'est plus de 350 pages. C'est bourré de noms, bourré de références, bourré de disques. Et c'est un monde parfaitement cohérent dans lequel on a envie d'entrer. Et Panassier et Cocteau disent une chose...
Cocteau qu'on l'a entendu tout à l'heure.
Oui, tout de suite après lui, oui. Ils disent une chose essentielle. Ils parlent de science et ils parlent d'intelligence. Jusqu'alors, le jazz, c'était la musique de l'instinct. C'était
la musique de la pulsion. Il y a juste un inconvénient. Oui. Les musiciens se connaissent-ils nécessairement dans ce qui est ainsi dit d'eux scientifiquement. Prenons un exemple, Django Reinhardt, le gitan qui vit pour l'essentiel dans sa roulotte et qui, avec Stéphane Grappelli, forme un long, presque inséparable duo, celui des meilleurs amis et ennemis du monde.
En 1930, j'étais à la Croix du Sud et j'ai vu une personne très originale descendre. J'ai voulu savoir qui il était. On m'a dit que c'était un Tzigane qui joue du banjo-guitare. Alors j'ai dit, ah bon, c'est tout, ça s'est terminé là. Mais la première fois que je l'ai entendu, je n'en ai pas cru mes oreilles.
Oui.
C'était la première fois que j'entendais vraiment des harmonies classiques transmises au jazz. Et j'ai voulu absolument jouer avec lui. Nous nous sommes rencontrés comme ça à Saint-Jean-de-Luz. Et il s'est arrangé pour avoir une guitare, parce qu'il était très original, il n'avait pas d'instrument d'ailleurs. Il les oubliait par-ci par-là. Et nous avons commencé à jouer, tous les deux dans un petit bistrot.
Grappelli, Django Reinhardt sera séparé par la guerre. Grappelli choisit de rester à Londres. Django Reinhardt, c'est curieux, connaît un très très grand succès au début de l'occupation, notamment à Paris. Le souvenir est resté que l'occupation a été une période noire pour le jazz, Philippe Quimplovitz.
Eh bien non, c'est une période dorée pour le jazz, une période qui a, par le simple fait que les musiciens américains n'étaient plus là, a permis aux musiciens français de jouer, d'enregistrer. Beaucoup de disques ont été enregistrés pendant l'occupation. Et ce qui est intéressant, c'est d'interroger le mythe, justement, le mythe de l'interdiction. Enfin, pourquoi a-t-on pensé que le jazz a été interdit? Alors évidemment, c'est le jazz, c'est musique judéo-nègre. Donc on s'est dit que les nègres et les juifs étaient pas bien à leur place sous le nazisme. Et on a étendu ça à la musique même.
Et en ce qui concerne le pétinisme, quand même, la chanson traditionnelle, le folklore pur de nos provinces aurait dû éclipser le jazz. C'était la bande sonore qui aurait dû dominer, celle de la terre qui ne ment pas.
Oui, mais c'est d'ailleurs, mais quand on écoute les chansons, les chansons de l'époque, on est effectivement dans ce cadre-là. Mais il y a quelque chose qui s'est implanté, tout simplement. C'est cette pulsation. Quand on écoute Django et Grappelli, d'ailleurs, on se rend compte, cette tenue, vous voyez, la tenue du temps, elle est passée dans le monde de la chanson française. Et je reviens à ce qu'on a écouté, extraordinairement intelligent.
Le swing, la tenue, le rythme. Ouais. Charles Delaunay, qui est le numéro 2 ou l'alter ego de Hugues Panassier.
Et bientôt le rival. Hein.
Monte un festival en 1941 où se présente la fine fleur du jazz français.
Le prestigieux quintet, Pierre Fouad, Tony Rovira, Django Reinhardt. Thank you.
Oui, ben là aussi, on danse sur les morts, Jean. Hein. On danse sur les morts qu'on ne veut pas voir. On joue le blues. C'est intéressant, hein, c'est du blues. Et il y a du riff et Charles Delaunay, qui est maintenant seul à bord du vaisseau amiral du jazz français, présente l'équipe. Enfin, chaque nom représente quelque chose aujourd'hui quand on les écoute. Hein.
Palacier, lui, il s'enferme de plus en plus dans la réflexion théorique et le climat du temps est quand même à la distinction raciale. Et alors, il produit des idées un peu paradoxales sur le rôle des Noirs, sur le rôle des Blancs, la hiérarchie des uns par rapport aux autres dans le jazz.
Oui, ben, c'est-à-dire que, encore une fois, bon, vous dites paradoxe, effectivement, c'est du paradoxe. Pour Panassier, c'est très clair, il y a une différence raciale dans la manière d'aborder la musique. Les Noirs ont tous les droits, tous les talents, ils sont en ligne directe avec une expression qui remonte du fond des siècles, qui dit la souffrance, qui dit la grandeur. Et les Blancs, à côté, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Ils peuvent être des copieurs, ils peuvent être, bon, dans le meilleur des cas, des copistes, valeureux. Donc pour les musiciens français, c'est absolument, c'est insupportable, cette situation subalterne.
Je renvoie à votre dernier livre chez Fayard, Les résonances de l'ombre, où vous réfléchissez sur ce thème de la musique et de l'identité. Et les défenseurs, il y en a toujours, les fidèles de Jazz Hot aujourd'hui disent « Non, non, ce qui se produisait pendant l'occupation, c'était pas de la vraie musique de jazz, c'était pas de la musique de culture, c'était de la musique de danse, de la musique de divertissement. » Les tournées qu'organisait Jacques Canetti jusqu'à ce qu'il ait pu rejoindre l'Algérie en 1942, les tournées de l'orchestre de Ray Ventura, juif lui aussi, qui l'amenait en Confédération helvétique, et puis fort judicieusement en Espagne pour rejoindre le Brésil et qu'il évoque ici après-guerre.
Eh bien, en 1940, après ma démobilisation, en juillet, j'ai eu l'occasion de reformer un orchestre assez différent de celui que beaucoup d'entre vous ont connu avant la guerre. Mes collégiens dispersés par les événements, beaucoup prisonniers, d'autres blessés, j'en trouvais seulement que trois de l'ancienne équipe, Coco Aslan, Jimmy Gaillard et Louis Vola, le contrebassiste que vous connaissez. Pendant un an et demi, nous avons tourné en Suisse, en zone non occupée, en zone nono, comme on disait tout à l'heure. Et puis, j'ai reçu une proposition pour aller au Brésil. Et malgré les énormes difficultés de transport, de visa, de transit, d'autorisation, alors, nous réussîmes tout de même à embarquer la troupe. Nous étions à peu près 26, même exactement 26, et le voyage m'est revenu globalement à 23 000 dollars. Il y avait l'orchestre au nombre d'une vingtaine, plus Mizraki comme arrangeur-compositeur, Jacqueline Dumonceau, la femme de Coco Aslan, la femme d'Henri Salvador, le régisseur, ça doit faire à peu près le compte.
Ray Ventura, les collégiens retrouveront le succès, feront des films. Néanmoins, le compte n'y sera plus tout à fait exactement. Les affiches sont redistribuées aussi pour le jazz après la libération.
C'est-à-dire que le jazz de Ray Ventura n'est vraiment plus de mise après-guerre. Il a eu un rôle très important tout de même, Ray Ventura, en 1930, quand il a créé les collégiens. Il a créé ce qu'on appelait les jazz de scène, à l'imitation d'un orchestre anglais, Jack Hilton. Et ces jazz de scène ont introduit la chanson française jazzy, réellement, avec des sketchs. C'est bon, après 38-39, ce sera « Tout va très bien, Madame la Marquise », etc. Bon. Mais après-guerre, n'importe comment, le jazz a changé déjà. Le jazz a changé, la musique n'est plus la même, et c'en est fini de cette époque que les vieux musiciens évoquent avec beaucoup de nostalgie, l'époque de ces grands orchestres, avec de jolis costumes, une toile peinte derrière, une chanteuse dont on était vaguement amoureux devant, on avait sa compagne qu'on emmenait avec soi, les villes d'eau, la villégiature, Saint-Jean-de-Luz, dont Dinard, Saint-Jean-de-Luz, Cannes, et on fait danser, mais le jazz n'est plus là, hein, le jazz n'est plus dans la danse.
Il est dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, rendez-vous de juillet, le film de Becker.
Vous êtes souvent ici?
Ah non, il y a trop de bruit.
Ah ben moi, c'est pour ça que j'y viens.
T'as raison, rien ne vaut le bruit quand il est beau.
Ah non.
Allez, petite tête, ça va?
Voilà. Venez, on va essayer de se faufiler jusqu'à l'orchestre.
Oui, alors rendez-vous de juillet, Jean Becker. C'est drôle parce qu'on écoute la musique et on s'aperçoit que le cinéma est souvent en retard sur la vie. Parce que c'est plus du tout la musique que l'on entend, c'est la musique de la Nouvelle-Orléans, c'est la musique qui a 30 ans d'âge déjà au moins. Et c'est pas vraiment cette musique que l'on joue, enfin on la joue un petit peu effectivement avec Claude Luther.
Il va faire beaucoup avec Claude Luther par exemple, la renaissance du style.
Oui, c'est ça, alors il va, ce qu'on appelle le revival, la renaissance du style Nouvelle-Orléans. Mais en tout cas là, c'est tout de même très empâté, c'est très pesant. Mais néanmoins, ce que ça raconte, c'est, bah, évidemment, c'est Saint-Germain-des-Prés, ce sont les caves, c'est la liberté reconquise. Et là, on a parlé des corps.
Frottis,
gigota. Et ben là ça volette les corps, hein, ça, on s'envoie en l'air avec ça.
Enfin, tout ça est bien connu. Et comme vous disiez il y a un instant, passons. On va pas s'apesantir donc sur cet aspect qui est le plus connu peut-être de l'histoire du jazz en France, et puis recommander un livre, encore un, que vous publiez, mais cette fois avec deux compères.
Vincent Cotreau et Laurent Cuny, oui.
Et qui s'intitule « L'histoire du jazz en France ». Ce sera à la fin janvier 2013, aux éditions Outre Mesure. Et ainsi quittons-nous le ciel de Paris, Jacky Terrasson. Mais ça, c'est très contemporain.
Oui, c'est très contemporain.
C'est pas
empâté. Oui. Comment? Non, pas du tout. Non. C'est un très bon musicien. Très bon musicien. C'est aussi, bon, voilà, c'est le jazz d'aujourd'hui. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas terminer sur le jazz
français d'aujourd'hui.
Sur le jazz français d'aujourd'hui. Et c'est un jazz qui est à la fois du côté de la musique contemporaine, avec François Couturier, et à la fois du côté de la chanson et d'autres. C'est un jazz assez cannibale, au fond.
Vous nous annoncez le titre de l'émission de demain, Philippe Gimplowitz.
From Swing to Bop.
Vous venez de l'inventer à l'instant. Nous serons dans les années 30 et 40. L'émission était préparée par Caroline Gravert, avec Camille Poux-Gelagui et Frédéric Martin, Franck Olivard, l'équipe de la Marche de l'Histoire, la réalisation Marie Casanova et à la technique Yann Bouillot.
Merci Jean Lebrun et à demain avec une nouvelle diffusion de La Marche de l'Histoire, une série sur l'histoire du jazz, From Swing to Bop 1935-1953. Bon après-midi sur France Inter.